Le sujet de ce matin, comme je l'ai dit, ça concerne la langue et surtout la façon de la dompter. Et comme je le disais, j'ai de l'appréhension parce qu'à chaque fois que je relis le verset 1 du chapitre 3, je me rappelle que prendre la parole ici devant vous ce matin, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Donc je vous propose de lire ce texte de Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Donc je vous encourage chacun à le prendre si vous avez si vous avez une Bible. Je vais l'afficher pour les autres. Donc, mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. C'est donc la fin du texte que l'on va étudier ce matin. Ce qui est intéressant avec le livre de Jacques, c'est que quand on le lit dans sa totalité, en fait, c'est une prédication. On pourrait simplement lire la lettre de Jacques dans sa totalité un dimanche matin, ça serait une excellente prédication. Mais on va quand même se permettre de commenter un peu, de voir un peu plus en avant ce que dit ce texte. Et ça commence par « Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez. » Nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Peut-être qu'à l'époque, certains se rêvaient enseignants ou rabbis. On voit que ça a été aussi un point particulier qu'il fallait éclaircir dans l'église de Corinthe. C'est pour ça, quand on a étudié l'église, l'épître aux Corinthiens, on voit que c'était quelque chose de particulier. Beaucoup de gens souhaitaient apporter la parole, souhaitaient pouvoir enseigner. Et en fait, quand on regarde ce que dit Jacques, ça n'était pas forcément enviable. Le ministère de la parole n'est pas à prendre à la légère. L'épître de Jacques est un livre que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment mon livre préféré de la Bible. Et à chaque fois que je lis ce verset 1 du chapitre 3, je ne peux que me sentir repris. Est-ce que j'accorde à la préparation de mes messages suffisamment de temps? Est-ce que je me prépare suffisamment dans le temps passé avec Dieu pour être légitime à me tenir devant vous? Est-ce qu'en me tenant devant vous ce matin, pour apporter la parole de Dieu, je ne prends pas la place de quelqu'un d'autre dans la vie chrétienne où le comportement ou ce qu'il apporte le rendrait plus légitime que moi? Est-ce que par mes paroles, je cherche vraiment à enseigner l'autre pour qu'il grandisse dans sa foi? Ou est-ce que je cherche à me grandir dans le regard de ceux qui m'écoutent? Dans ces moments où on est appelé à prendre la parole, nous devons nous remettre en question. Nous devons nous demander quel est l'état de mon cœur. Est-ce que j'enseigne aux autres ou est-ce que je transmets ce que Dieu m'a enseigné? Comment un enseignant qui par sa bouche expose la gloire de Dieu peut par cette même bouche parler mal à ses proches ou calomnier ou mentir sans réaliser qu'il y a là un problème? Comment présenter aux autres ce que Dieu veut quand nous sommes nous-mêmes incapables de l'appliquer à nos propres vies? Toute personne amenée à enseigner doit se poser cette question. À la fin de ma prise de parole, à qui reviendra la gloire? Et l'implication, en fait, elle est double. Pour celui qui nous écoute, premièrement. Parce que si on parle pour notre propre gloire, on détourne ses yeux de Christ et nous ne l'amenons pas à regarder dans la bonne direction. Et pour nous aussi, deuxièmement, car Jacques nous le rappelle, on sera jugé plus sévèrement. Un seul verset, et je me dis qu'il y a une responsabilité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Jacques parle ici du ministère de la parole, mais il me semble qu'on peut, sans trahir le texte, réfléchir à notre attitude, à nos vies, à nous tous, quand nous sommes appelés à enseigner à nos enfants, quand nous sommes appelés à enseigner aussi peut-être à nos amis qui nous demandent à en savoir plus sur la parole de Dieu, quand nous sommes appelés à enseigner la Bible à notre entourage. Vous le savez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le don d'évangéliser que nous ne sommes pas appelés à évangéliser. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le don d'hospitalité que nous ne sommes pas appelés à ouvrir nos maisons. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas le don d'enseigner que nous ne sommes pas appelés à partager la parole de Dieu. Et lorsqu'on enseigne, lorsqu'on partage cette parole, est-ce que l'on récite un mantra qu'on nous a enseigné, qui finalement est rentré dans notre tête et qui est devenu pour nous un genre de réflexe intellectuel? Ou est-ce qu'on arrive encore à parler de l'amour formidable de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ parce qu'on a une intimité réelle avec lui? Est-ce qu'on joue notre partition de chrétien parce qu'on finit par se dire que c'est ce qu'on doit faire? Oui, moi, en tant que chrétien, je sais, quand on me pose des questions sur ma foi, je sais exactement ce que je vais dire parce que c'est calibré. Ou alors est-ce qu'au contraire, on enseigne avec passion la vérité que le Saint-Esprit nous souffle? Nous étions morts et aujourd'hui nous sommes vivants, et vivants pour Christ, et que nos vies soient en accord avec cela. Ce n'est pas juste un réflexe intellectuel. Et ce premier verset du chapitre 3 me parle, m'interpelle et me travaille, d'où mon appréhension ce matin. Et en fait, il me permet aussi de rentrer de plein pied dans ce questionnement qui nous est présenté ce matin par Jacques. Comment est-ce que je fais usage de ma langue? Comment mes paroles révèlent qui je suis réellement? Comment mes paroles révèlent l'état de mon cœur? Ces mots de Jacques concernant la langue arrivent dans le texte juste après ce qu'il dit sur le fait que la foi sans les œuvres est morte. Et combien nombreuses sont les œuvres que nous faisons et que nous accomplissons par nos paroles. Je vous propose ce matin un découpage en deux parties. Premièrement, la langue, comment la dompter? Et deuxièmement, la langue, comment la changer? Et on va voir qu'en fait, il y a une nuance, mais une nuance qui a son importance. On commence donc avec la langue, comment la dompter? On parle tout le temps. C'est vrai, on parle tout le temps, que ce soit en parole, mais aussi par des textos, par des mails, ou par tout autre moyen de communication qui est mis à notre disposition par la technologie moderne. On est sans cesse en train de parler. On est sans cesse en train de proférer des paroles. Alors, contrairement à certains stéréotypes, les femmes ne prononcent pas particulièrement plus de mots que les hommes. Et nous serions tous environ à 15 000 mots prononcés par jour. Soit presque 5,5 millions de mots prononcés en une année. Ça en fait des mots. Ça en fait des occasions. Des occasions pour encourager ou des occasions pour rabaisser. Des occasions pour aider ou des occasions pour faire souffrir. Des occasions pour bénir ou des occasions pour maudire. Notre langue est capable de tellement de choses. Des hommes ont soulevé des peuples entiers par leurs mots. Des discours inspirants ont mené à des prises de position courageuses, à des chamboulements de la société. D'autres discours ont mené aux pires atrocités. Certains mots ont pu changer une vie, aider, encourager. D'autres ont parfois causé un tort profond et sérieux, une plaie vive qui met des années à cicatriser. Qui mieux que notre Seigneur Jésus a pu, par ses mots, changer la vie de ses contemporains et encore nos vies à nous aujourd'hui? Et combien de vies ont été brisées par les mots de certains dictateurs qui ne méritent pas qu'on les nomme? Quand on regarde la facilité avec laquelle viennent certains mots, la rapidité qu'ont certains à tweeter, à commenter, on se dit que les mots s'envolent vite, parfois trop vite. Ils partent et on n'arrive pas à les reprendre. Les paroles méchantes ne s'effacent pas. Une excuse les atténue peut-être. Le temps cherche à les oublier, mais elles ne disparaissent jamais vraiment. Combien de mots avons-nous prononcé en les regrettant juste après, sur le coup d'une colère passagère? Si vous me permettez une image moins poétique, les paroles sont comme du dentifrice. Une fois sorties du tube, impossible de les y remettre. Combien parmi nous avons chuté par nous? Jacques nous dit que chacun commet des fautes de bien des manières ou chute de plusieurs façons. Il souligne là que nous péchons tous dans notre vie de tous les jours de bien des manières différentes. Mais celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles, celui-là, c'est un chrétien mature qui serait capable de se maîtriser et même plus de maîtriser son corps entier. L'enjeu dans le fait de dompter sa langue n'est rien de moins que la maturité et la maîtrise de notre corps tout entier. Le fait de contrôler sa langue est un signe de maturité spirituelle. Et ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Et nous devons aspirer à contrôler cette langue. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise tout son corps. Et si c'était facile, on croiserait des chrétiens parfaits. Alors soit ils sont très discrets, soit ils ne parlent pas, ceci expliquant peut-être cela. Mais en tout cas, c'est loin d'être facile. Et je n'en ai pas croisé beaucoup durant ma vie. Des chrétiens exceptionnels, j'en ai rencontré. Mais parfaits, je ne crois pas. Une grande qualité qu'on voit chez Jacques, et qui joue d'ailleurs un rôle dans l'affection que j'ai pour cet épître, c'est qu'il a une capacité à trouver des images fortes, des images parlantes, des images qui sont pleines de clarté. Et je fonctionne beaucoup par images, j'aime ça. C'est pour ça que cet épître me parle aussi particulièrement. Il nous dit, quand nous mettons à mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Il dit aussi, pensez au bateau, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. La langue, bien que petite, peut faire beaucoup. La langue, c'est 17 muscles sur les 639 que contient notre corps. C'est-à-dire que la langue représente environ 2,7% des muscles de notre corps. Ce n'est pas grand-chose. Eh bien, un si petit organe peut provoquer tant de choses. Il y a dans ces images qui sont données par Jacques l'idée d'une volonté. Quand il parle des chevaux, quand on leur met à mort, ils nous obéissent. Pour le bateau, il va au gré du pilote. Un outil, le mort, le gouvernail, qui représente la langue, et l'objet sur lequel cet outil agit, le cheval, le bateau. Et on voit aussi que la langue donne une direction à ce que nous sommes. Son action a une grande influence. On peut comprendre ce que nous sommes dans le sens de notre personne, de notre témoignage. Et on repense à ce verset de Matthieu chapitre 12, verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, la langue n'est qu'un outil qui révèle le caractère de son propriétaire. Lorsque les digues cèdent, lorsqu'on n'est plus à l'église, lorsqu'on n'est plus à notre travail, là où on est peut-être moins attentif à nos paroles, vous savez, lorsque ce vernis de nos bonnes manières se désagrège et qu'on est là dans un cadre familier ou privé, que révèle notre langue sur nous? Que révèle-t-elle sur l'état de notre cœur? Lorsque nous prenons des nouvelles les uns des autres et qu'on s'intéresse aux gens autour de nous, est-ce qu'on le fait pour paraître altruiste? Est-ce que derrière on va dire du mal d'eux ou est-ce qu'on le fait pour de bonnes raisons? Si nos paroles sont gentilles et bienveillantes en public, est-ce qu'elles le sont toujours en privé? Est-ce qu'on répand la calomnie? Est-ce qu'on se moque d'autres personnes? Est-ce qu'on a une langue qui est prompte à divulguer des commérages? Je ne sais plus qui nous avait raconté cette histoire d'une femme de pasteur qui dit dans la voiture à son mari en rentrant du culte « Tu peux arrêter de sourire, chérie, c'est bon, on n'est plus à l'église. » Est-ce qu'on est comme cela? En fait, le déroulement de la pensée de Jacques est on ne peut plus logique. De même que les œuvres reflètent la foi du chrétien, notre langue reflète ce que nous sommes réellement à l'intérieur. Rappelons-nous d'ailleurs ce qu'il dit en Jacques chapitre 1, verset 26. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Si à l'intérieur, on est rongé par de mauvaises choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tôt ou tard, ça va forcément se traduire en paroles. Et si on se surprend nous-mêmes à avoir des paroles désobligeantes ou médisantes, ça doit être un avertisseur sur l'état de notre cœur. Notre bouche, c'est la caisse de résonance de notre cœur. Et ce qui sort de notre bouche sera l'écho de ce qui remplit notre cœur. Et il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Et en effet, on ne peut qu'être d'accord avec Jacques. La langue se vante de grandes choses. Elle peut faire à la fois de bonnes choses, comme le gouvernail dirige le bateau dans la tempête, et à la fois briser tant de choses, comme un feu qui brûle une forêt. J'ai vu dans un commentaire biblique une analogie qui n'est pas faite directement par Jacques, mais qui me semble pertinente. Et j'espère que vous me permettez de la partager. Cette analogie reprend l'image des membres et du corps pour les comparer à l'Église. Il est vrai qu'un seul membre, par ses paroles, peut parfois faire bien du tort à l'Église, au corps de Christ. Combien d'Églises ont été ravagées par des paroles médisantes, inappropriées, des calomnies, des réflexions acerbes, des critiques non constructives. Vous savez, ces petites phrases qui, lâchées au gré des humeurs, comme autant de morsures empoisonnées, sèment la discorde et l'hostilité dans une église. L'un de mes premiers sujets de prière en ce qui concerne notre église est que le Seigneur préserve notre unité et que, quels que soient les différends qui pourraient survenir, que nos paroles reflètent toujours l'amour fraternel que nous avons les uns pour les autres. La langue peut être un feu qui ravage tout, qui contamine tout. Si notre langue est allumée au feu de l'enfer, elle enflammera toute notre existence. Et je viens du sud de la France. On a appris dans la douleur et par la souffrance comment un tout petit mégot, comment un tout petit feu peut ravager facilement une forêt tout entière. On ne laisse pas à la moindre chance, la moindre occasion à nos langues de ravager et de contaminer ce qui nous entoure si on veut que les choses durent. Une phrase dite trop vite, un mot qu'on pense être une petite blague, un petit sarcasme. Vous savez, quand on dit « c'est pas méchant, tu rigoles, je me moque gentiment », c'est pour plaisanter. Proverbes chapitre 26, versets 18 et 19. « Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches semant la mort autour de lui, tel est l'homme qui trompe son prochain et qui dit ensuite « c'était pour plaisanter ». Même ces petits mots peuvent blesser. Mais en lisant ce passage, on réalise quelque chose d'absolument terrible. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Si le texte s'arrêtait là, bien, on aurait envie de jeter l'éponge. On pourrait se dire que, quoi qu'il en soit, la langue ne se maîtrise pas. Et donc, en fait, ce n'est pas la peine de faire le moindre effort. C'est de toute façon voué à l'échec. Mais le texte continue. Et on arrive à la partie 2. La langue, comment la changer? Versets 8 à 12. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Si Jacques nous met en garde, s'il nous dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Il y a une solution. Le fatalisme n'a donc pas sa place ici. Il y a un moyen. Et la Bible nous encourage parfois à vivre des choses qui nous semblent impossibles, à faire des choses qui nous semblent absolument impossibles. Parce que si on s'arrête à cette phrase, la langue, aucun homme ne peut la dompter, on se dit que c'est grillé, c'est fini, c'est mort. Si une enceinte classique, diffuse de la mauvaise musique, est-ce qu'on cherche à changer l'enceinte ou est-ce qu'on cherche à changer la musique? Est-ce que vous avez déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne, des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Quelle réponse, quelle puissance on trouve dans ces deux versets. Ce n'est pas l'ouverture de la source le problème, c'est la source elle-même. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je dis la bouche, mais nos réseaux sociaux parlent pour nous également. Quand on pense que grâce à des algorithmes, des ordinateurs nous connaissent peut-être parfois mieux que nous-mêmes, en analysant ce qu'on écrit, ce que l'on poste, ce que l'on tweete, nos paroles virtuelles révèlent aussi le reflet de notre caractère. En tant que chrétien, notre bouche sert à louer Dieu. Et parfois aussi, malheureusement, à maudire les hommes. Et en fait, ça nous paraît complètement contradictoire, ça nous paraît fou quand on y pense. C'est une aberration de la nature. Comment de l'eau salée et de l'eau douce peuvent-elles jaillir de la même source? Nous sommes des saints qui pêchent. Notre vieille nature est vaincue, mais elle n'est pas éradiquée. En fait, on dirait qu'il y a une vanne de voix ici. De quelle source va donc jaillir l'eau qui sort de notre bouche? Proverbe, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Il y a deux possibilités quand la langue s'exprime. Et Jacques pose ici le constat que plutôt que de chercher à dompter la langue, il faut qu'on laisse Dieu changer notre cœur. Certains chrétiens qui m'ont le plus marqué n'étaient pas des chrétiens qui parlaient très bien, qui avaient une grande éloquence ou qui avaient le plus de connaissances, mais c'était ceux qui avaient un cœur entier pour Dieu. Vous savez, c'est le genre de chrétien de qui émane un amour, une gentillesse, une simplicité qui reflète pleinement l'image de Christ. C'est ce genre de chrétien qui m'ont marqué. Psaume, chapitre 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un autre passage aussi que j'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps et utilisé par certaines personnes complotistes à tort et à travers, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par ma bouche, je peux chercher à me glorifier moi-même, ou je peux chercher à glorifier mon Dieu. Mais si je glorifie mon Dieu, il faut alors que j'accepte que je ne serai pas celui qui prend la lumière, je serai simplement celui qui la reflète. Dieu change nos cœurs. Il a la possibilité de le faire si on lui laisse la porte ouverte, si on lui laisse cette marge de manœuvre. Et s'il change nos cœurs, alors la langue sera l'ouverture qui laissera enfin jaillir de l'eau douce. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à ce que l'on dit, car nous ne sommes malheureusement pas encore parfaits et notre ancienne nature a quelquefois des soubresauts qu'il faut maîtriser. Jacques d'ailleurs nous dit au chapitre 1, verset 19, « Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. » Et Proverbe 13, 3, « Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à la ruine. » On est donc appelé effectivement à veiller. Je ne veux pas que ce matin vous partiez en vous disant « Il a dit qu'en fait on n'avait pas à faire attention. » Non, on est appelé à veiller à ce que l'on dit. Mais on n'est pas appelé à faire vœu de silence. Ce que Jacques nous enseigne, c'est que le vrai challenge, c'est de laisser Dieu changer pleinement nos cœurs. Et c'est ainsi que sortira de nos bouches quelque chose qui changera également. Si celui qui guide le cheval, si celui qui guide le bateau, dirige bien et correctement le mort ou le gouvernail, s'il va dans la bonne direction, le cheval entier ou le bateau va lui aussi dans la bonne direction. Si c'est Dieu par son Saint-Esprit qui est aux commandes, qui a les rênes, alors notre langue agira pour le bien et non pour le mal. La langue, aucun homme ne peut la dompter, mais Dieu n'est pas un homme. Jésus est bien plus qu'un homme. Le Saint-Esprit peut tout à fait soumettre notre langue, mais Dieu ne force pas la main et il prend dans nos vies la place qu'on lui laisse. Il serait tellement plus simple de se dire « Allez, je fais vœu de silence ». Rien à dire, je suis sûr pas faire d'erreur, plutôt que de demander à Dieu de changer notre cœur et de nous discipliner. Parce que si on fait vœu de silence, on va pas dire d'insanité, mais elles seront toujours là quelque part. Le mort dans la bouche du cheval, le gouvernail, le feu, toutes ces choses peuvent engendrer d'énormes dégâts. Mais si elles sont sous contrôle, elles peuvent aussi être des outils formidables entre les mains de Dieu. Vous savez, dans le texte que nous a lu Nasser, quand on annonce le Seigneur, quand on dit ce qu'il a fait. Ce sont des outils entre les mains de Dieu. Je ne dis donc pas qu'il ne faut pas veiller sur sa langue ou faire d'efforts, mais la vraie victoire n'appartient pas à celui qui a le plus grand self-contrôle de sa langue, celui qui est le plus fort. Non, la vraie victoire appartient à celui qui s'agenouille aux pieds du Seigneur Jésus, qui rend les armes et qui s'en remet à lui pleinement pour que Dieu se charge de changer son cœur. Notre langue peut faire des choses merveilleuses si elle est sous contrôle. Elle peut rendre gloire à Dieu Elle peut bénir, elle peut édifier, elle peut témoigner. Notre langue n'est pas nécessairement l'ennemi. L'ennemi, ça serait plutôt notre cœur tortueux. Quand on prend Proverbes chapitre 10, versets 19 à 21, « Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. » Et là, le verset 20, « La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. » Et enfin, « La parole du juste oriente beaucoup de gens, mais les insensés périssent faute de bon sens. » La langue du juste, la parole du juste peut vraiment faire une différence significative en ce bas monde. Et faire vœu de silence, ça serait une erreur. Ça serait se priver d'un formidable outil que Dieu nous donne pour pouvoir parler de sa gloire, mais quand c'est lui qui est aux commandes. Et là, donc, ce passage de Proverbe nous dit « Mais celui qui manque de bon sens, c'est-à-dire celui qui manque de sagesse, périt. » Et en fait, Jacques va continuer au chapitre 3 en parlant justement de la sagesse. Puis au chapitre 4, il va parler des désirs égoïstes de ceux qui veulent être amis du monde. Puis il va ensuite parler des orgueilleux qui aspirent à la richesse. Alors, je ne développerai pas aujourd'hui ces points, je ne veux pas vous spoiler, ça sera pour une prochaine fois. Mais pour conclure, je dirais que nous devons nous rappeler que pour qu'un figuier produise des figues, il faut qu'il soit né figuier. Pour qu'un olivier produise des olives, il faut qu'il soit né olivier. Pour qu'un homme produise des œuvres bonnes, que sa langue produise de bonnes paroles, il faut qu'il soit né de nouveau. Alors, si c'est le cas, rapprochons-nous de Dieu. Laissons le potier travailler l'argile que nous sommes. Notre responsabilité n'est pas d'essayer à tout prix par nos propres forces de dompter notre langue sans changer le reste. Oui, nous devons veiller sur notre langue, mais là où nous devons fournir le plus d'efforts, c'est en étant à l'écoute de notre Seigneur, en cultivant notre proximité avec lui, en lui obéissant, en vivant ses commandements. Et c'est Dieu qui nous transformera, car on n'a pas ce pouvoir sur nous-mêmes. Et notre langue, plutôt que d'être domptée, sera changée, afin que, par nos paroles, Dieu soit glorifié. Jeune, moins jeune, il n'est jamais trop tard pour que Dieu fasse son œuvre en nous et que nos langues soient son outil.